Libre-échange avec Tamir Rolfi.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans Libre-échange. Nous allons parler cette semaine d'un sujet important dans notre économie. On va parler du secteur avicole puisque Dewajin, le rendez-vous annuel qui réunit l'ensemble des professionnels du secteur avicole s'est tenu la semaine dernière à Casablanca. Et nous allons faire le point de ce secteur dans l'économie marocaine.
L'invité de la semaine.
Notre invité est le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, Youssef Alaoui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
Et pour m'accompagner et représenter la Vieco, c'est Mehdi Jawari qui a fait le déplacement. Bienvenue Mehdi dans le studio d'Aswat.
Merci beaucoup.
Alors on va peut-être commencer, comme je le disais il y a quelques instants, la semaine dernière s'est tenu salon annuel, un rendez-vous important pour votre secteur, mais aussi un moment où le secteur utilise ce salon comme une vraie vitrine pour les Marocains et les consommateurs marocains. Quel bilan on peut faire de Dewajin cette année ?
Alors, c'était la 22e édition. Clairement, ce salon a connu un succès incroyable. Trois jours très intenses, énormément de visiteurs, près de 400 exposants. On a dû même refuser des stands parce qu'il n'y avait plus de place. En fait, le salon s'est imposé comme un rendez-vous vraiment africain régional, l'Afrique de l'Ouest. C'est devenu le point de rendez-vous d'ailleurs de beaucoup de monde et il s'est fait même sa place dans le monde, ce salon.
Annonce déjà plus de 20 pays présents.
Oui.
Alors présents dans les stands ou présents dans les visiteurs ?
Présents dans les stands et dans les visiteurs, avec une impressionnante, un nombre impressionnant de délégations africaines. Du Mali, du Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, un réel intérêt de ces pays. Et c'est vrai qu'au Maroc, ils peuvent tout retrouver, tout ce qui tourne autour de la profession, et c'était très bien.
Quelle était la particularité de l'édition de cette 22e édition, l'édition de cette année 2019 ?
Alors, la particularité, d'ailleurs, c'était même à l'entrée du salon, nous avons dû présenter un modèle d'abattoir mobile, et c'est très important. Et qui, à notre sens, pourra être agréé par l'ONSA. D'ailleurs, les autorités qui étaient présentes sur place nous ont confirmé que normalement ça ne posait pas de problème. Et c'est très bien, ça va pouvoir résoudre pas mal de problèmes sur les sous mobiles, en milieu rural. Et c'est des choses vraiment très importantes. Nous étions engagés à le préparer et à la veille du salon, nous avons reçu donc le premier modèle que nous espérons, qui effectivement pourra venir pallier à ces problèmes que nous trouvons sur la partie abattage et distribution.
Première question, Mehdi Johari.
Qu'en est-il de toutes les problématiques sanitaires, notamment tout ce qui concerne les tueries traditionnelles?
Riachat,
les fameuses.
Alors, sur Riachat, alhamdoulilah, nous sommes arrivés à un compromis cette année. Il y a donc une circulaire tripartite signée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et du Commerce et de l'Industrie, qui fixe le niveau de réhabilitation de ces riachettes, soit en petit abattoir de proximité de quartier, pour les ménagères, soit en point de vente. Et à la clé, pour les gens donc, qui veulent effectivement se mettre à niveau et avoir la gamme en donne ça, une prime de 30 000 dirhams, qui va être donc mise en place, on espère, courant premier trimestre 2020, donc mise en place dans le cadre du plan Rawash, dit le ministère de l'Industrie. Et ça, c'est très important. C'est quand même... Pour notre secteur, il faut savoir que c'est Riachat, avec tous les problèmes qu'il y a, c'est 15 000 points de vente. 15 000 points de vente et 15 000 points de vente qui écoulent près de 90% de notre production.
Alors quand on vous écoute, vous imaginez bien, Monsieur Sfalaoui, je rappelle que vous êtes notre invité en libre-échange et président de la FISA, Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Quand vous parlez des Riachat comme ça, le consommateur qui nous écoute a le seul sentiment qu'on va tuer l'activité de l'abattoir dans son quartier ou du pseudo-abattoir de son quartier et que c'est le poids d'industriels puissants qui vont remplacer. Comment vous réagissez à cela ?
Non, alors du tout. Je reprécise. Il va y avoir deux modes d'abattage. Donc il y a des abattoirs industriels.
Oui.
Et ces abattoirs industriels, donc bien entendu, livre tout le monde, du particulier aux collectivités, aux hôpitaux, aux prisons, les grands hôtels, enfin les hôtels tout court, les restaurants. Les abattoirs, ce qu'on appelle de proximité, c'est-à-dire riachettes mises à niveau ou qui seront des points de vente, eux sont dédiés exclusivement aux ménages. Et c'était déjà la loi est dans ce sens-là, et depuis le premier jour. Les Riechettes ne sont pas censés livrer la restauration collective.
Bien sûr.
Et donc, non, nous, au contraire, on n'appelle pas du tout à leur disparition. Je vous dis, c'est un formidable réseau de points de vente. Vous imaginez que les grandes surfaces ne représentent pas un maillage suffisamment important pour que là, on laisse disparaître. Au contraire, je vous dis, on est dans la réhabilitation, c'est ça qui est très important.
Et qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs ? Parce qu'in fine, c'est le consommateur qui doit nous intéresser.
Mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi un impact sur le prix, peut-être ?
Ah non, du tout. Vous savez, qu'est-ce qui est demandé dans la circulaire ? Il faut mettre du carrelage. Il faut en fait que tout le local soit lavable. Il faut avoir des tableaux en inox, pas en bois, pour éviter les contaminations croisées. Et c'est ça le plus important. C'est pas grand-chose. Vous savez, remettre à niveau une Riechat, c'est une enveloppe de 45-50 000 dirhams. Avec une subvention de 30 000 dirhams.
Mais à la taille du point de vente, sont des montants énormes. Donc l'État peut mettre 30 000 dirhams. Pour stimuler, il reste 15 000 dirhams à peu près de la poche de l'entrepreneur lui-même. Ça veut dire quoi ?
Je peux vous assurer que c'est largement dans leurs moyens. Et alhamdoulilah, pour eux, c'est des points de vente qui tournent.
Oui. Qui rendent service aux consommateurs. Voilà, c'est dans ce sens.
Oui, et qui rendent service dans le sens où, effectivement, une ménagère trouve chez elle un poulet placé sur place. Elle n'a pas besoin de prendre le bus
Ça veut dire que quand je vais dans le point de vente dans mon quartier, demain, qu'est-ce que ça va changer pour moi en tant que consommateur dans ce point de vente ? Il sera carrelé, il répondra à des normes.
Et contrôlé par l'ANSA.
C'est surtout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un label ?
Il sera autorisé par l'ANSA. À partir du moment où il est autorisé par l'ANSA, vous pouvez faire vos courses.
Nous parlons de cela à quelle échéance ?
La circulaire est déjà signée. Maintenant, ce qui reste, c'est mettre en place le mécanisme pour obtenir la subvention. Et je pense que ça sera fait le premier trimestre 2020 au plus tard.
Alors, tant qu'on parle d'échéance et de ce qui va être réalisé, j'aimerais évoquer avec vous le contrat programme qui lie votre secteur à l'État. Vous avez un contrat programme qui va de 2011 à 2020. Nous sommes à une année de l'échéance. Nous sommes début décembre. Dans un an, votre contrat programme aura bouclé la boucle. Qu'est-ce qui reste à faire ? Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, concrètement, en termes de capacité, on est largement au-dessus de ce qui était fixé par le contrat programme. Le Maroc est autosuffisant. Nous sommes même, et je peux le dire, en surcapacité.
Oui.
Sur l'emploi direct et indirect, nous sommes bons. Nous sommes entre 450 et 500 000 emplois, ce qui est le cas. Le chiffre d'affaires consolidé secteur pour l'année dernière était plus de 31 milliards de dirhams. Ce qui reste, effectivement, la partie qu'on n'a pas encore réussi, c'était l'assainissement des circuits de commercialisation. Mais je pense qu'avec la mise en place de cette circulaire et le déplacement, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, du marché de gros de Casablanca qui était un point noir, si nous arrivons à le faire en 2020, je peux dire qu'on pourra dire que le contrat programme aura été entièrement réussi.
Alors, on parle du marché de gros Casablanca parce que c'est un point noir dans l'ensemble du dispositif national. L'objectif était de déplacer ce marché de gros. On peut en parler. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, concrètement, le marché de gros de Roche-Noire, effectivement, était un problème pour les habitants du quartier, était un problème pour les consommateurs et un problème pour les professionnels.
Bien sûr.
Pour l'image, vous imaginez tous les efforts qui sont faits, que ce soit dans nos élevages, dans les usines d'aliments, dans les couvoirs, sont mis à plat par ce marché. Alors concrètement, tout simplement, le ministère de l'Agriculture donc, a bien voulu mettre à disposition un terrain à la sortie de Casablanca, dans la commune de Ain Jemaa. Le financement a été bouclé. Une partie sera apportée donc, par le ministère de l'Agriculture. Une bonne partie sera apportée par le ministère de l'Agriculture, en plus du terrain. Les autorités de Casablanca, pareil. Et pour une partie, la FISA aussi, qui va contribuer financièrement. Et donc, c'est un marché qui sera aux normes, respectant toutes les normes, même environnementales. Et donc, je pense que ça sera fait avant la fin de l'année 2020. Et je vous dis, donc, dans ce cas-là, on sera bon, on aura tenu nos engagements.
Voilà. Donc, si vous l'ouvrez fin d'année 2020, on pourra considérer que, bon, allez, même début d'année suivante, à un mois ou deux mois après,
Je vous assure, je suis vraiment optimiste pour que ce soit finalement fin 2020.
De sorte à ce que ce soit dans le cadre de ce contrat programme.
Exactement.
Vous l'évoquiez en passant dessus très rapidement, vous parliez quelques instants de surproduction. Quelle est la situation ? Quelles sont les activités de la filière qui sont vraiment en surproduction ?
On a été vite sur les investissements. La vérité, le contrat programme a fixé un cadre et les gens ont massivement investi, que ce soit dans les élevages, dans la production de poussins, les usines d'aliments. Donc maintenant, Il faut trouver un autre marché que le marché marocain. Et je pense que là-dessus, beaucoup d'opérateurs commencent à regarder ailleurs. Et nous avons
Mais quelles sont les activités ? Dans quoi on est sur production ? Dans la production de l'œuf ? Sur production dans le poussin, dans l'aliment, à quel niveau ? Dans l'élevage ?
Sur toute la filière. Mais moi, je dirais autre chose. Je ne peux pas considérer vraiment, même si j'ai employé le terme de surproduction.
Qu'est-ce que consomme le Marocain comparativement à d'autres pays ?
C'est ce que je vous dis. C'est ce que je voulais dire, même si j'ai employé le terme de surproduction, c'est qu'en fait, peut-être que nous ne consommons pas assez. Alors, nous sommes au Maroc à une moyenne de consommation de 20 kg par an par habitant de viande de volaille et à peu près 200 œufs. La moyenne sur les pays développés, juste au-dessus de nous, est plus proche des 35-40 kilos et des 300 œufs. Donc la marge de progression est encore là.
Dans l'espace méditerranéen, on parle de quoi ?
On parle de cette... Alors, dans l'espace méditerranéen, disons la rive nord, on est plus, ce que je vous dis, vers les 35-40 kilos. D'accord. Donc on a encore une forte marge de progression. Mais la partie sud et surtout l'Afrique, on est encore... bien en deçà de ces chiffres, parce qu'à peu près la moyenne de consommation par kilo par habitant sur l'Afrique est à peine de 3 kilos, et même pas 30 œufs.
On est très loin. Ça, c'est l'Afrique subsaharienne.
Voilà. Et le potentiel de développement mondial, et toutes les études économiques sur l'agriculture, se situera en Afrique.
Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir l'ambition de faire du Maroc un champion à l'export en Afrique ?
Oui, sur ce secteur, oui. Concrètement, oui. Et d'ailleurs, d'où l'engouement, on l'a vu, des délégations africaines qui sont venues au salon pour faire des affaires. Mais je vous dis aussi, il y a des opérateurs, trois opérateurs qui sont installés en Mauritanie, directement au Sénégal et au Mali. Et c'est très encourageant.
Ce sont des opérateurs de quelle activité ?
Dans l'activité de production de poussins et d'aliments. Et qui aurait dit, quand on parlait entre nous, entre professionnels, il y a 5-10 ans, dire, allez, cet intérêt étranger investir, ça semblait une utopie, mais je crois qu'on va y arriver.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi, de la part de votre secteur, des possibilités d'investissement à l'étranger dans d'autres activités que celles que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'aliment et le poussin, qui sont plutôt en amont ?
Oui, qui sont plutôt en amont. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a eu ici sur la partie peut-être abattage, parce que là, effectivement, il y a un manque flagrant, d'unités d'abattage sur ces pays-là. Et je pense que c'est un maillon sur lequel aussi il faut penser.
Qu'en est-il de l'industrie, donc tout ce qui est transformation de viande de volaille ?
Alors, l'industrie de transformation de viande de volaille...
L'industrie agroalimentaire, transformation de la volaille, après l'abattoir.
Il y a effectivement des innovations. Par exemple, je le vois sur l'œuf. L'œuf, maintenant, effectivement, des unités qui sont montées d'œufs liquides. Vous savez, pour la restauration collective,
ça c'est bien.
Nous avons aussi des labels qui existent, comme le label du poulet fermier qui existe au Maroc. Donc, en fait, il faut créer de la valeur ajoutée. Et nous sommes maintenant, et je pense que la prochaine étape du futur plan Maroc vert, je ne sais pas encore son nom, donc après 2020, on devra se focaliser sur créer de la valeur dans notre secteur, créer de la valeur ajoutée dans notre secteur.
Allez, merci beaucoup Youssef Alaoui, vous allez rester à nos côtés. On va faire un petit zoom sur votre secteur, un regard de naïf, et je vous donnerai la parole pour la conclusion.
Le zoom de libre-échange.
Alors évidemment, quand je réfléchis à votre secteur, j'ai le sentiment de dire qu'il faudrait penser le secteur avicole dans sa chaîne de valeur globale, comme vous l'encadrez dans le cadre de la FISA. Alors en amont, évidemment, avec l'aliment, mais aussi le poussin. Au cœur de ce secteur, toute la partie élevage. Et en aval, il faut quand même le dire, les abattoirs industriels qui servent les collectivités, qui peuvent servir la grande distribution, mais aussi la transformation des riachettes. Ça va être un travail de longue haleine et un travail de corps à corps à faire, parce qu'il est d'abord social, il est d'abord changement de comportement du consommateur, mais aussi il induit un changement de comportement de ces riachettes elles-mêmes. Il y a pour moi nécessité de rassurer, de mobiliser et de former les quelques 10 à 20 000 vendeurs qui ont les riachettes un peu partout dans nos quartiers, dans nos médinas, dans les villes, quelle que soit leur taille de notre pays, pour les convertir en riachettes modernes qui respectent des règles et évidemment qui deviennent des vrais soutiens à la consommation pour ceux qui sont au cœur de votre secteur, c'est-à-dire l'élevage avicole. Alors, une des questions, c'est de se dire aussi comment est-ce que les industriels de ce secteur vont-ils agir pour développer, accompagner ces réseaux au service des consommateurs et en favorisant peut-être plus de création de richesses. Comment est-ce que les grandes entreprises de ce secteur, alors on en connaît la taille, sont en général de belles PME, ce n'est pas des grands groupes, mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elles puissent travailler avec leurs marques, avec les riachettes, pour les accompagner à se transformer et représenter les élevages qui sont derrière. C'est tout un chantier, mais sans riachettes, on n'aurait plus le plaisir du poulet dans nos tagines, évidemment.
Le mot de la fin.
Votre avis et vos réactions, Youssef Alaoui.
En fait, moi, je vais m'adresser directement aux consommateurs marocains.
Oui.
Parce que parfois, sont véhiculés vraiment de fausses informations. Moi, je dis qu'on peut sereinement et très sereinement consommer du poulet et de l'œuf. Il faut savoir que 95% des fermes sont contrôlées par l'ONSA, qu'elles doivent toutes, elles disposent toutes d'un vétérinaire encadrant. Et là, il y a des choses qui s'écrivent, qui sont, j'entends, des choses, des hormones, de l'arsenic, enfin des choses vraiment qui sortent de l'entendement. Adressez-vous aux professionnels, adressez-vous aux vétérinaires, adressez-vous aux médecins et vous verrez que les choses sont très claires concrètement à ce qui est véhiculé par quoi et qui nous fait mal parce que franchement, moi je suis producteur et je vois le travail qu'on y met, le cœur qu'on y met. Et c'est anormal que quelqu'un vienne et sorte des choses sans qu'elles s'enfondent. Vous savez, là, il est tout à fait simple d'aller faire analyser, d'aller dans un laboratoire, payer 310 dirhams, faites ce que vous voulez. Mais arrêtons de sortir des choses qui ne tiennent pas.
Vous parlez de quelques journalistes qui sortent des fausses informations sur le secteur. Mais alors, c'est bien, ce ne sont pas quelques journalistes qui représentent les 35 millions de consommateurs que sont les Marocains. Mais en même temps, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la qualité de vos produits qui sortent de la filière ?
Je vous assure que sereinement, oui. Mangez du poulet, mangez de l'œuf, allez-y, les yeux fermés et mangez.
Est-ce que demain, pour les riachettes, je vous posais la question dans mon petit zoom, est-ce qu'on peut imaginer quelques gros éleveurs qui travaillent avec des riachettes pour en faire leur vrai circuit de distribution,
Oui, bien.
Mais les aider à se transformer, que ça devienne des réseaux de marques?
Bien entendu, parce que l'idée, c'est que le propriétaire de cet endroit a dû de choisir. Il veut rester en petit appartement de proximité, se transformer en point de vente. Effectivement, c'est un formidable véhicule de commercialisation, je le dis. Maintenant, il faut qu'il soit mis à niveau, il faut qu'il soit contrôlé comme tout le monde, pour que tout le monde soit rassuré.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour la formation? Ils sont plus de 15 000, vous le disiez vous-même tout à l'heure.
Alors, la formation.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour la formation? Mettre du carrelage, c'est bien. Et comment on veut changer les comportements dans les riachettes pour améliorer la consommation?
Vous avez touché un point sensible, c'est qu'effectivement, le premier abattoir de proximité agréé est celui que nous avons mis en place dans notre saut de formation à Injma, pour vous le dire. Voilà. En fait, c'est sur 12 mètres carrés, nous avons mis un petit centre de formation et depuis un an, nous avons commencé la formation de ce personnel-là. Il faut savoir que ce centre de formation réunit les trois filières animales, la filière lait, la filière viande rouge et avicole. C'est un centre pour des formations courtes, d'une journée à une semaine. Et depuis son ouverture, depuis 2015, 15 000 personnes ont été formées. C'est un succès fulgurant.
Alors, les gens qui tiennent des riachettes ne sont pas tous à Casablanca, ne peuvent pas prendre un bus, un grand taxi blanc pour pouvoir venir faire leur activité. Ils viennent d'autres villes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les former?
Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a créé cet abattoir mobile. On ira chez eux. On les formera sur place.
Merci beaucoup, Youssef Alaoui. Je rappelle que vous êtes président de la FISA, Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole. Vous avez été notre invité dans Libre-Échange. Merci pour la qualité, je me dis. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, on est studio de la SWAT. Pour ma part, je vous dis merci de votre écoute et de votre fidélité. Merci de votre écoute, de votre fidélité. À Libre-Échange et à SWAT, je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Même heure, même endroit, je vous attendrai. À la semaine prochaine.